Nous allons revenir une fois de plus à ce thème qui nous accompagne depuis plusieurs semaines. Ce thème qui, à partir d'une image qui nous est familière, à savoir l'image du soleil, nous montre, explique, mes amis, comment le Seigneur est venu sur cette terre plongée dans les ténèbres, cette terre gangrénée par le mal, cette terre esclave de l'ombre de la mort, esclave des forces obscures des ténèbres. Comment tout d'un coup, mes amis, le soleil levant Jésus-Christ est venu sur cette terre pour éclairer tout homme qui se tourne vers lui. Alléluia. Jésus, le soleil levant, qui nous a visités d'en haut. Quatrième épisode. Nous continuons, car nous avons encore besoin de lui aujourd'hui. Nous voulons encore que ces rayons qui émanent de sa personne, mes amis, puissent nous irradier, puissent rendre incandescente notre vie, puissent nous communiquer sa nature, afin que nous mettions à notre tour à briller comme lui, à resplendir de sa gloire, à briller de son éclat. Nous voulons comme lui, mes amis, être incandescent, lumineux, brillant, resplendissant. Tout cela grâce au rayon qui émane de sa personne. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Et depuis que nous avons commencé avec ce thème, nous avons vu comment des hommes, un jour, ont eu l'opportunité, ont eu la grâce d'approcher le Seigneur et d'être au bénéfice des rayons qui émanent de sa personne, ces rayons qui sont porteurs non seulement de salut, qui sont porteurs non seulement d'espoir et d'espérance, ces rayons qui sont non seulement porteurs, mes amis, de délivrance et de libération, nous avons aussi vu que ces rayons qui émanent de sa personne, de lui le soleil levant, Jésus-Christ, ces rayons sont aussi porteurs de guérison physique. Alléluia. C'est donc des rayons qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Des rayons, mes amis, qui nous traversent tout en nous communiquant la vie dont nous avons besoin, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Et gloire au Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de cette femme qui a souffert pendant de nombreuses années, 12 années, mes amis, de souffrances atroces, 12 années durant lesquelles cette femme a versé toutes sortes de larmes, 12 années de désespoir, 12 années, mes amis, d'humiliation. Elle souffrait en effet d'une perte de sang, elle souffrait d'hémorragie, jusqu'au jour où cette femme va avoir ce privilège d'approcher le Seigneur, jusqu'au jour où enfin elle va approcher celui qui brille plus que toutes les étoiles de l'univers réunies ensemble, ce jour-là quelque chose va se passer dans son corps. Après avoir été baladé par toutes sortes de spécialistes, enfin, en approchant Jésus par la foi, cette femme va expérimenter la guérison. Et aujourd'hui, nous irons à la rencontre de quelqu'un d'autre. Comme je vous avais dit, nous allons continuer notre pèlerinage, notre voyage à travers le Nouveau Testament, à la rencontre des différentes personnes, chacune dans son besoin, chacune avec ses attentes, et voir comment ces attentes ont été rencontrées par le Seigneur de gloire. Alléluia. Comment leurs besoins, eh bien, ont été rencontrés par celui qui se révèle à l'humanité comme étant le soleil levant. Nous allons lire dans Marc, nous restons dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, l'histoire bien connue de cet homme avec un handicap terrible. Et à cause de son handicap, cet homme a été conduit à mener une vie d'humiliation, une vie de mendicité. Il s'agit donc de l'aveugle de Jéricho, un certain Bartimée. Nous sommes dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Nous lisons. Ils arrivèrent en Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle réagit évidemment. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Quelle issue formidable, quelle issue glorieuse que celle qu'a connue la situation de cet homme. De cet homme, comme je viens de le souligner, qui, à cause de son handicap, cet homme avait été contraint à mener une vie d'humiliation, une vie de mendicité. Mais avant de nous focaliser sur cet homme et voir comment cet homme, ou du moins sa démarche, peut nous inspirer, j'aimerais donc revenir très rapidement sur cette femme. Cette femme qui souffrait d'une maladie terrible, d'une maladie qui causait des saignements persistants. Cette femme souffrait d'hémorragie. Et à cause de cela, mes amis, cette femme a eu à verser des larmes, comme beaucoup d'entre nous. Car depuis que le péché est entré dans le monde, depuis que le péché est devenu une réalité, hélas, pour l'humanité, les larmes de douleur, les larmes d'humiliation sont aussi devenues, du coup, une réalité pour l'homme, quel qu'il soit. Que de larmes versées par cette femme à cause de sa situation, à cause de son état. Pendant 12 ans, devant le Seigneur, devant le Dieu d'Israël, cette femme a pleuré, cette femme a versé tant de larmes devant Dieu. Et comme nous l'avons vu, grâce soit rendue à Dieu, de ce que ces larmes ne sont pas tombées sur une terre qui les aurait tout de suite absorbées. Ces larmes ont été recueillies par le Seigneur dans son outre. Oh, alléluia. Mes amis, peu importe le problème, ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous apprenions à les pleurer devant lui. Les larmes que nous versons devant le Seigneur ne sont pas des larmes vaines. Ce ne sont pas des larmes, mes amis, qui finiront par s'évaporer, par sécher, pas du tout. Quand nous versons les larmes alors que nous sommes dans la présence du Seigneur, alors que nous sommes dépassés par les événements, alors que la douleur ronge, la souffrance ronge tout notre être, eh bien la Bible nous dit que ces larmes sont recueillies par le Seigneur dans son outre. C'est David qui nous a laissé cette perle, cette révélation extraordinaire. Cet homme a eu à connaître tant de problèmes dans sa vie. Il a été traqué comme du gibier par ses adversaires. Il est passé par des moments difficiles. On a déjà eu à parler de cet homme. Avant son règne, même pendant son règne, cet homme a été confronté à toutes sortes d'épreuves. Cet homme a été en proie à des difficultés, traqué par ses ennemis, harcelé, mes amis, tourmenté nuit et jour par ses adversaires. Et pendant tout ce temps, David a appris à pleurer devant Dieu, devant le Dieu qu'il avait appelé. Il était un jeune homme qui gardait le troupeau de son père. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, lorsqu'il a jeté son dévolu sur lui pour en faire le conducteur, le roi d'Israël. Et David avait compris qu'il n'y avait pas d'autre endroit où il fallait aller pleurer, si ce n'est vers le Seigneur lui-même. Et c'est là, dans le psaume 56, nous l'avons vu, au verset 9, où cet homme dit, « Seigneur, tu comptes les pas de ma vie d'errance. Je suis semblable à un homme en vadrouille. Je n'ai plus d'adresse fixe. Je suis traqué. Je suis harcelé. Je suis tourmenté par mes adversaires qui cherchent tous par m'ôter la vie. » Et dans ce moment difficile, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de souffrance, mes amis, alors que tout son ciel était obscurci par toutes ces épreuves, David avait appris à se tourner vers le Seigneur et à répandre son cœur devant lui. Et c'est là, au psaume 56, verset 9, où il déclare, « Seigneur, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. » Et il ajoute, « Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Quel soulagement, quel réconfort, quelle consolation de savoir que lorsque nous pleurons, nous les enfants de Dieu, lorsque nous pleurons, nous les disciples du Christ, lorsque nous le faisons devant lui et dans sa présence, eh bien ces larmes sont recueillies par lui dans son outre. Elles restent inscrites dans son livre. Et puis un jour il se souvient de nos larmes, il se lève de son trône et vient à notre secours. Alléluia. Job a eu à pleurer. Job a eu à remplir l'outre du Seigneur avec ses larmes. Et puis un jour, son Rédempteur s'est levé. Il est allé à son secours. Cette femme, pendant 12 années, est passée entre les mains des différents spécialistes. Elle a dépensé tout son argent. Toutes ses économies y sont passées. Sans aucune amélioration. Mes amis, en vain, elle a dépensé son argent. Toutes sortes de thérapies lui avaient été proposées par tel spécialiste, par tel autre médecin. Mais aucune n'a pu la soulager. Aucune n'a pu apporter la guérison dans son corps malade. Et puis un jour, le soleil levant, mes amis, s'est mis à rayonner. Un jour, cette femme, ayant entendu parler de Jésus, ayant su que Jésus passait par là, elle s'est levée et s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est ainsi qu'elle va aller. Alors que le Seigneur était entouré par une foule immense, elle est arrivée à se faufiler à travers la foule jusqu'à ce qu'elle touche le Seigneur. Et aussitôt qu'elle a touché le Seigneur, la Bible nous dit qu'une force est sortie du Seigneur est entrée dans le corps de cette femme. Et sur le champ, subitement, instantanément, aussitôt, la maladie a disparu. Elle sut, elle connut, elle sentit qu'elle venait d'être guérie. Le flux de sang s'est arrêté. Il n'y a que Jésus qui est capable de choses pareilles. Oh, alléluia. Et aujourd'hui donc, nous allons partir à la rencontre, cette fois-ci, d'un homme dont nous venons de lire le récit. Cet homme n'est autre que Bartimée, qui veut dire évidemment en araméen fils de Bartimée. Cet homme souffrait de cécité. Et à cause de sa cécité, cet aveugle était contraint, mes amis, à mendier. Jusqu'au jour, comme pour la femme, jusqu'au jour où le Seigneur passe par là, et là, cet homme va se lever, va crier encore, sans tenir compte de gens qui étaient là et qui cherchaient à le décourager, qui le rembrouaient quasiment, il a crié. Et puis Jésus a entendu sa prière. Et résultat, cet homme a recouvré la vue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regardons un tout petit peu au contexte géographique et historique pour mieux comprendre, pour mieux nous, nous imprégner de la pensée biblique et voir comment vous et moi, aujourd'hui, ce matin, nous pouvons amorcer la même démarche que Bartimée pour aller vers le Seigneur et chercher la solution dont nous avons besoin. Le Seigneur et ses disciples, après avoir franchi le Jourdain, arrivent à Jéricho. Il est en route vers Jérusalem. Il est donc suivi par une foule nombreuse, une foule considérable. Il quitte donc le nord, la Galilée, il passe par la région de Bérée, il descend vers Jéricho, et puis de Jéricho, il devait continuer jusqu'à Jérusalem. Et ça va être son dernier voyage vers Jérusalem. Car après ce voyage, après être passé à Jéricho, après avoir visité puissamment, eh bien, cet aveugle Bartimée, le Seigneur n'y repassera plus, ou ne passera plus par ce chemin-là. Vous voyez, il y a des occasions qui ne reviennent pas deux fois. Vous comprenez pourquoi la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, le Seigneur est en route vers Jérusalem. Il passe par Jéricho. Il est en route vers Jérusalem pour prendre part à sa dernière Pâque. Quand il arrive à Jérusalem, il va enseigner, etc. Et puis les choses, les événements vont se précipiter. Il va être arrêté, etc. Vous connaissez la suite. Mais nous sommes encore à Jéricho. Jéricho. Cette ville était parfois appelée ville des palmiers. C'était une ville accueillante, une ville merveilleuse, magnifique, qui avait été rebâtie. Du moins, la ville de Jéricho dont il est question, par laquelle le Seigneur est passé, cette ville avait été rebâtie, avait été reconstruite avec magnificence par Hérode le Grand. Voyez-vous, le roi Hérode le Grand, c'est encore lui qui avait construit le grand temple de Jérusalem, temple dans lequel le Seigneur était entré. La construction de ce temple avait duré 40 ans. Hérode le Grand avait reçu du Sénat romain le titre de roi. C'est comme ça qu'on l'appelle roi. Et lui avait construit, il avait son palais d'hiver à Jéricho, dont c'était une magnifique ville. C'était une ville accueillante. Évidemment, là où le roi va, parce qu'il a un palais, eh bien, ses collaborateurs aussi devaient avoir leur résidence, n'est-ce pas, pour être aux côtés du roi, afin que quand il toussera, quand il fera un geste, qu'on soit prêt pour répondre à ce geste-là. Et c'est donc dans cette ville de Jéricho que le Seigneur arrive. Il y passe quelque temps. Il est juste de passage, parce que sa destination finale, c'est Jérusalem, c'est la Pâque. En sortant de Jéricho, Jésus n'est pas seul. Il est évidemment avec ses disciples, mais aussi une foule assez nombreuse, une foule considérable. Ils sortent de Jéricho sur le chemin qui conduit tout droit vers Jérusalem, et là, la Bible nous dit qu'il y avait un homme assis sur le bord du chemin. Cet homme était aveugle. Cet homme s'appelait Bartimée. Comme je l'ai dit, Bartimée, fils de Timée. Bar en araméen veut dire fils. Fils de Timée. Il est assis. C'est un mendiant. Pas étonnant. Il est là pour mendier. Il est là pour demander l'aumône. Il est là pour demander la charité. Il est appelé donc à vivre grâce à la générosité des passants. Si quelqu'un est touché, si quelqu'un a pitié de lui, il lui donne, il lui laisse quelques petites pièces, que sais-je, peut-être même à manger. Il est là pour mendier, pour demander l'aumône. Un mendiant aveugle. Un mendiant, mes amis, qui ne peut vivre que grâce à la générosité des autres. C'est un homme au creux de la misère. C'est un homme qui n'a pas d'espoir, qui n'a aucun horizon, si ce n'est que les gens de la famille le prennent, l'aident et le conduisent là où il était. Avait-il l'habitude de se mettre là? En tout cas, c'était un endroit idéal, puisque tous ceux qui devaient partir à Jérusalem, monter vers Jérusalem, comme je vous avais dit, on ne descend jamais à Jérusalem, d'après la parole de Dieu. Vous venez de Galilée, vous venez du nord, eh bien, normalement, en bon français, vous descendez, non? Non, on monte à Jérusalem, parce que c'est la ville sacrée. On y va pour monter vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il est au creux de la misère. Il est là, sa main constamment tendue aux passants pour qu'ils reçoivent quelque chose de leur part. À cause de son handicap, cet homme est donc contraint de vivre dans la misère, contraint de mener une vie misérable, une vie de mendicité. Et cela n'est pas étonnant, car la plupart des professions à l'époque nécessitaient un travail physique. Et par conséquent, un aveugle, eh bien, ne voyant rien, ne pouvait pas avoir l'occasion de travailler. Il n'était d'ailleurs pas les seuls à vivre de mendicité. Il n'était pas d'ailleurs les seuls à vivre de la générosité des autres. Il y avait tous ces gens infirmes, invalides, qui pour une raison physique ou autre ne pouvaient pas travailler et par conséquent devaient vivre grâce à la mendicité, grâce à l'aumône. Et cela, malheureusement, en dépit de la loi de Moïse, qui demandait à ce qu'on porte secours aux démunis, qu'on porte secours aux personnes dans le besoin. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 25. Vous verrez, 25, 35 à 38, vous allez voir et vous comprendrez pourquoi le Seigneur s'est insurgé contre l'hypocrisie des pharisiens, des scribes, qui respectaient aveuglément la tradition de leur père et qui sacrifiaient l'obéissance à la parole de Dieu. Car si en Israël, les gens obéissaient à la parole, eh bien, il n'y aurait pas eu, mes amis, des mendiants le long des chemins, le long des chaussées. Ils auraient bénéficié des moyens de la part de leur famille ou de la part de la société. Mais enfin, donc c'était pour eux une vie très très difficile. Et surtout pour les aveugles. Car dans certains milieux, on considérait les aveugles comme étant frappés de la malédiction divine. Donc pour beaucoup, naître aveugle, ou même le devenir plus tard, était synonyme d'un jugement de Dieu, synonyme de la malédiction. Souvenez-vous de la réaction des disciples du Seigneur dans Jean chapitre 9, les deux premiers versets. Jésus est en train de passer avec ses disciples, et il y avait là un aveugle. Et la Bible nous dit que c'était un aveugle de naissance. Jésus voit cet aveugle de naissance. Les disciples s'arrêtent, se tournent vers le Seigneur et lui disent, et lui demande, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Donc c'était une conception que malheureusement certains avaient fini par développer, que tout handicap physique, et en l'occurrence la cécité, était signe d'une malédiction, était la preuve que la personne qui en souffrait était frappée du jugement de Dieu. Donc, tous les aveugles étaient obligés de mendier. Revenons à Bartimée. La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps dure sa cécité. Pas du tout. Si pour la femme de Marc 5, la femme qui souffrait de perte de sang, la Bible précise que cela durait depuis 12 ans, pour Bartimée, rien n'est dit. Est-il né aveugle? Ou est-il devenu aveugle à la suite d'une maladie ou d'un accident? Il y a des gens qui sont devenus aveugles à la suite d'un accident ou à la suite d'une maladie. La Bible ne nous dit pas De toutes les façons, cela n'est pas important pour le Seigneur. Alléluia. Peu importe la durée de sa maladie. Peu importe, mes amis, l'origine. Dieu est capable d'accorder la guérison, la délivrance. Alléluia. Il est capable de nous débarrasser de la maladie, quelle que soit son origine. Et peu importe le temps que cette maladie dure, peu importe sa durée. Donc cet homme mendiant est au bord du chemin. Il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe, entouré évidemment d'une foule nombreuse. Il y a donc du bruit, il y a donc de l'agitation, il y a donc du mouvement. Il entend, il demande peut-être à quelqu'un qui était là à côté, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On lui apprend que c'est Jésus de Nazareth. Il entend que c'est Jésus de Nazareth, alléluia. Aussitôt, mes amis, cet homme, ce mendiant, se met à crier. Il avait déjà entendu, sans doute, de choses sur Jésus, comme la femme de Matthieu, de Marc 5. Elle aussi avait entendu. Elle avait entendu des choses sur Jésus. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Parlez de Jésus. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien cela peut faire du bien à quelqu'un sans que vous le sachiez. Vous parlez de Jésus qui guérit. Vous parlez de Jésus qui libère. Et puis il y a quelqu'un qui est là, qui entend ça. Il s'est dit, ah bon, donc Jésus peut me visiter. Et ce qu'il va entendre va susciter la foi. Foi qui va l'amener à Jésus pour recevoir la solution à son problème. Alléluia. Il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il crie implacablement, mes amis, en demandant au Seigneur d'avoir pitié de lui. « Fils de David, » voyez-vous, c'est le titre messianique, car à travers la Bible, nous voyons que le Messie devait être un descendant de David. Le roi Messie était connu comme descendant de David. Il se met à crier. Il s'est dit aussi, comme la dame, c'est aujourd'hui où il a eu raison, mes amis. Nous, avec le recul, nous voyons que c'était la dernière fois que le Seigneur passe par ce chemin. Car après, eh bien, le Seigneur va mourir, il va ressusciter, et puis ça sera fini. Mon frère et ma sœur, ne reporte pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne dis pas, je vais me tourner vers Jésus demain, après-demain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut te réserver comme surprise. C'est aujourd'hui le jour de ta guérison. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Cet homme crie. Pendant qu'il criait, plusieurs vont vouloir, mes amis, l'en empêcher, le menacer, le rabrouer, voyez, le réprimander, le reprocher. Tais-toi un peu, monsieur, tu nous casses les oreilles. Qu'est-ce que tu crois avec tous ces gens autour de lui, avec tout ce mouvement, avec toute cette agitation? Toi, tu oses crier, pour qui tu te prends? Tu nous dérange avec tes délires. Vous voyez, mes amis, pourquoi la Bible parle de persévérance. Il y aura toujours de l'opposition lorsque quelqu'un se lève pour aller vers Jésus. Voyez-vous? Et souvent, c'est là dans l'entourage que vient le découragement. Voyez? Mais Bartimée ne se laisse pas décourager. Il ne se laisse pas arrêter dans sa détermination. Il veut absolument recevoir la guérison, alléluia. Et la guérison dépend de sa confiance en Christ. Sa guérison dépend, mes amis, de son approche de Jésus. Comment approcher Jésus s'il n'entend pas ma voix? Il a crié. Il ne se décourage pas. Au verset 48, il nous est dit, plus on cherchait à le décourager, eh bien, plus il criait. Quelle audace! Vous vous rappelez, la foi audacieuse, c'est ça. Voyez? Les gens sont là pour nous décourager. Les gens sont là pour nous rabrouer, nous menacer, nous reprocher, nous traiter de tout et de rien. Eh bien, ne nous laissons pas distraire. Voyez-vous, vous connaissez tous ce proverbe arabe qui dit « Le chien aboie, mais la caravane passe ». Ce n'est pas les aboiements du chien qui va, mes amis, qui vont arrêter la caravane. De même, ne nous laissons pas décourager par notre environnement de plus en plus incrédule. Voyez-vous, ayons nos regards rivés sur Jésus. Continuons à crier à lui. Il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Heureusement que cet homme a persévéré dans sa recherche de guérison, car après ce voyage, ce passage par Jéricho et par ce chemin-là, Jésus n'est plus repassé. Quelle grâce, quelle bénédiction. C'était son dernier voyage. Et comme je vous ai dit, comment on le sait, il monte à Jérusalem. Il va prendre part à sa dernière Pâque. Il monte à Jérusalem pour y mourir. En effet, il va mourir et puis ressusciter. Malgré la foule autour de lui, malgré l'agitation autour du Seigneur, malgré le mouvement, tant de mouvements autour de lui, cet homme a continué à crier. Vous voyez, nous retrouvons le même schéma que pour la femme. La femme, c'était la même chose. Quand elle est arrivée, il y avait déjà du monde autour du Seigneur. Quand elle est arrivée, il y avait déjà des gens autour du Seigneur dont certains le touchaient. Mais elle ne s'est pas laissée décourager. Elle ne s'est pas dit, mais Jésus, une femme, comment voulez-vous que je me fraye un chemin, que je me faufile à travers cette foule et arrive jusqu'à Jésus. Mais elle était déterminée. Elle s'était dit, avec tout ce que j'ai entendu concernant Jésus, Jésus qui guérit toute maladie, Jésus qui libère de toute emprise, avec tout cela, c'est aujourd'hui ou jamais. S'il faut qu'on m'écrase, s'il faut que les gens me jettent par terre, parce que je fais tout pour rapprocher le Seigneur, que cela arrive, pourvu que j'y arrive, alléluia, et que je touche le Seigneur. C'est le même schéma, la persévérance, la détermination, nous en avons besoin, mes amis. Aujourd'hui, la société nous facilite tant de choses. Comme j'ai déjà eu à le souligner une fois, à l'époque, pour pouvoir communiquer, ce n'était pas facile. Il fallait avoir un téléphone fixe. Et quand on n'en avait pas, il fallait aller dans une famille où il y en avait un. Je me souviens encore, à l'époque, à Bruxelles, où il y avait des cabines. Quand je devais appeler mon frère ici, en hiver, je sortais dans le noir. Évidemment, il y a des lampadaires, mais quand il fait au mois de décembre, c'est noir, noir, zwart. Je devais aller chercher une cabine téléphonique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, même de votre lit, le seul effort que vous pouvez faire, c'est d'étendre votre main. Le smartphone est là. Vous êtes dans votre couverture. Allô, et vous parlez. Voyez. Et l'impact d'une telle société, mes amis, sur la foi est terrible. Nous avons tendance qu'avec Dieu, à l'époque, les gens devaient aller chercher les cabines téléphoniques dont ils devaient marcher, n'est-ce pas? Donc ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de tout ce temps. J'ai besoin de Dieu, illico presto, j'appelle et j'attends la réponse. Gloire à Dieu. Voyez? Comme si Dieu aujourd'hui, lui aussi fonctionne avec un smartphone. Pas, fils, ma fille, ça va? Seigneur, j'ai besoin de ça. Ok, tout de suite je te l'envoie. Non, il faut la persévérance, il faut la détermination, il faut une conviction forte. C'est dire, je vais, non pas pour me frotter à l'ambiance qui règne autour de lui, non, je vais pour une solution. Et tant que je n'aurai pas reçu la solution, je ne le lâcherai pas. Gloire à Dieu. Il a persévéré. Quelle foi audacieuse, mes amis. Quelle foi. Finalement, le Seigneur entend sa voix et il s'arrête. Alors qu'il y avait des gens autour de lui. Alors qu'il y avait une foule nombreuse. Certains se frottaient à lui. Mais ce n'est pas cela qui l'a fait arrêter. C'est le cri d'un mendiant aveugle. C'est le cri d'un homme. Un cri porté par la foi. C'est donc la foi qui amène le Seigneur à ça. Mes amis, faisons tout pour développer cette foi-là. Car avec la foi, tout devient possible. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a été autrefois, il est encore aujourd'hui. Mais nous pouvons bénéficier de toutes ces bénédictions que dans la mesure où nous nous laissons porter par une foi ferme, par une foi inébranlable, par une foi audacieuse. Il fallait être audacieux. Les gens tout autour de toi essayent de t'arrêter, ils te traitent de tout et de rien, fanatique. Tais-toi. Qui es-tu, monsieur? Tu penses que tu es le seul qui ait besoin de Jésus? Et puis, de toute façon, nous sommes en route vers Jérusalem. Oui, beaucoup de gens qui étaient dans la foule, à part ses disciples, n'étaient pas là pour recevoir quelque chose, mes amis, de la part du Seigneur. Beaucoup avaient profité de la descente du Seigneur ou de la montée, hein, passez-moi l'expression, vers Jérusalem, se faufiler. Il y avait des pèlerins qui étaient plus préoccupés par leur arrivée à Jérusalem pour la Pâque. Car comme vous le savez, on descendait. Le sacrifice ne pouvait se faire qu'au temple. Et le temple se situe à Jérusalem. Il y avait des synagogues dans les villes. Mais pour tout ce qui est sacrifice, il fallait absolument aller à Jérusalem. Donc, les gens étaient pressés. Vous ne pouviez pas prendre une vache depuis la Galilée, votre brebis depuis la Galilée pour l'amener à Jérusalem afin d'être sacrifié. Pas du tout. Il y avait donc une monnaie qui avait cours au temple. Vous comprenez pourquoi il y avait des étables où on faisait les gens changer, parce qu'il y en a un qui venait des pays lointains. Ils avaient la monnaie de ce pays-là. Quand ils arrivaient, ils devaient acheter la monnaie du temple. Donc, ça demandait du temps. Vous voyez ? Il fallait arriver à temps, aller chercher la bête, acheter un pigeon pour telle ou telle autre chose, etc. Donc vous voyez, mes amis, des gens étaient là, non pas parce qu'ils avaient besoin du Seigneur. Ils étaient là plus préoccupés, ils profitent simplement de la bonne ambiance. Ah, c'est Jésus, c'est formidable. Rien que le voir, on est apaisé, vous voyez. Ça fait du bien d'être dans sa présence. Oui, ça peut faire du bien, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions l'approcher par la foi, c'est que nous puissions le toucher. Oh, alléluia. Préoccupés par leur arrivée à Jérusalem. Et là, nous voyons deux catégories de personnes dans notre marche avec Dieu. Quand nous nous levons pour aller chercher une réponse quelconque, il y en a ceux qui vont nous rabrouer, qui vont nous reprocher, qui vont essayer de nous faire taire, de nous décourager, voyez-vous, qui vont essayer de tout faire pour que nous n'allions pas loin, qui vont essayer de nous faire raisonner, soit raisonnable. Vous voyez ces histoires-là, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, on est dans un monde post-moderniste. Aujourd'hui il y a ceci, aujourd'hui il y a cela. Toutes ces histoires, c'était des mythes, de la mythologie, etc. Il y aura toujours des gens pareils, qui vont te décourager. Mais mes amis, ne cède pas ce genre de sirènes mortifères. Et puis l'autre groupe est constitué de gens qui vont prendre la parole. Quand le Seigneur s'arrête, il dit, appelez-le. Les gens prennent cette parole, ils partent avec cette parole pour l'amener à qui? À Bartimée. Voyez. Et quand il lui amène cette parole, il encourage. Il lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il a entendu ta prière. Lève-toi, il t'attend. Pour toi, il s'est arrêté. Mes amis, nous avons tous du prix aux yeux du Seigneur. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Tous logés à la même enseigne, celle de la grâce. Il a du temps pour moi, il a du temps pour toi. Alors ne te dis pas, oui, mais moi je suis ceci, je suis cela. Je ne pense pas que le Seigneur m'aime autant qu'il aime le pasteur Bondo. Je ne pense pas que le Seigneur m'aime autant qu'il aime tel ou tel autre frère. Mes amis, c'est faux. Ça, ce sont des pensées du diable. Dieu nous aime tous de la même manière. Oh, alléluia. Il est prêt à s'arrêter pour n'importe qui. Pour autant que n'importe qui puisse l'appeler par la foi. Gloire à Dieu. La réaction de Bartimée est immédiate. Oh, on doit avancer. Quand il entend que le Seigneur s'est arrêté pour lui, donc cela veut dire quoi? Il a entendu son cri. Eh bien, il jette son manteau. Il se lève d'un bond et va vers Jésus. Ce manteau était tout pour lui. Ces mendiants, ils avaient un manteau qu'ils étalèrent où on déposait quelque chose, vous voyez? Quand ils s'asseyaient sur le bord de la route ou je ne sais où, eh bien, ils avaient ce manteau. Évidemment, il y a aussi le froid, il y a beaucoup de choses. Mais enfin, ils étendaient ces manteaux, comme on voit avec certaines dames qui mettent leur pagne pour qu'on leur donne, on leur verse quelque chose. Eh bien, lui jette ça. Lui jette, il se débarrasse. Quelle manifestation de foi! Il n'hésite pas, mes amis. Voyez-vous? Il se dit, s'il m'appelle, s'il s'est arrêté, c'est qu'il a entendu mon cri. Mais aussi, il a entendu la raison pour laquelle j'ai crié à lui. Et il ne peut pas s'arrêter simplement pour le plaisir de s'arrêter. S'il s'est arrêté, c'est qu'il a, il veut répondre à mon besoin. Gloire au Seigneur. Je pars vers lui pour ne plus revenir à cette vie. Quelle détermination. Voilà pourquoi il jette son manteau. Ce manteau d'humiliation. Ce manteau de mendicité. De moquerie. Et aux yeux de certains, manteau de malédiction. Voyez-vous, il l'a jeté. Il n'a pas dit aux gens qui sont venus lui apporter la bonne nouvelle comme quoi le Seigneur a entendu sa prière. Il ne leur a pas dit, vous êtes où? Bon, prenez-moi ce manteau, gardez-le. Je vais d'abord, on ne sait jamais. Dans vos histoires-là, il faut être prudent. Il faut toujours préparer dans deux casseroles. Oui, en politique, ça existe. Oui, dans la vie de tous les jours, en matière de foi, il n'y a pas deux casseroles. Il n'y a que la casserole de la foi. Dans la vie de tous les jours, il faut toujours, et ça c'est un principe que j'applique souvent, il faut toujours avoir deux casseroles. Vous préparez dans une première casserole. Si ça ne prend pas, eh bien, vous allez vous avez une seconde chance. Le plan B. Hein, pour utiliser l'autre expression, le plan B. Le plan A échoué, ben je me tourne vers le plan B. Lui n'a pas dit, bon mon frère, tu es où là? Tiens-moi un peu ça. En attendant. Non! Il est sûr, la foi, mes amis, s'exprime par une confiance totale. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi, c'est quoi? C'est une assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour lui, la guérison est là. Il démontre en se débarrassant de tout ça. Il part. Je n'en aurai plus besoin. Il laisse ça, même ce qu'on a mis, l'aumône et tout ça, eh bien que les autres prennent. Quant à moi, c'est une nouvelle vie. Oh, alléluia. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est un nouveau chapitre. L'autre page, je viens de la déchirer. Et il est parti. Quelle détermination, quelle audace. Et quand il arrive à Jésus très rapidement, puisque nous devons prier, le Seigneur lui pose une question. Que veux-tu que je te fasse? Cette question n'a pas pour but de recueillir de l'information, comme si Jésus ignorait le problème de cet homme. Tout le monde savait que c'est un aveugle, oui ou non? Pour certains aveugles, à l'époque, il n'y avait pas de lunettes fumées. Aujourd'hui, quelqu'un peut mettre de lunettes fumées si l'on ne vous dit pas que c'est un aveugle. Ou si vous ne le voyez pas marcher avec sa canne, vous ne sauriez pas qu'il est aveugle, puisque les lunettes fumées, n'importe qui peut les mettre. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais le Seigneur lui pose quand même la question. Que veux-tu que je te fasse? Eh bien, le Seigneur ne s'attend pas à recueillir une quelconque information comme s'il ignorait la situation de cet homme, comme s'il ne voyait pas qu'il était vraiment aveugle. Mais le but de cette question est d'encourager Bartimée à être clair dans sa requête. Oh, alléluia! À être clair dans son besoin et à exprimer sa foi par rapport à ce besoin. Car quelquefois, nous, Tu arrives devant le Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que tu entends par bénis-moi? C'est quoi exactement tu cherches? Et ce matin, je vais donner l'occasion à certains d'entre nous. Aller vers le Seigneur, tout en sachant ce qu'on veut. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, pose ta main. Oui, mais il va la poser. Pour faire quoi? Voilà. Est-ce une maladie? Seigneur, j'ai besoin de guérison. Est-ce telle ou telle autre chose? Il faut être clair. Et là, il répond, « Rabouni, que je recouvre la vue. » J'aurai peut-être un jour le temps de revenir sur cette expression. « Rabouni, mon maître. » Cette expression beaucoup plus solennelle que le simple mot « rabbi ».« Rabouni, c'est solennel. Que je recouvre la vue. Que je cesse d'être aveugle. » Et le Seigneur reconnaît sa foi, alléluia. Il voit là sa foi et l'honore. Que lui dit-il? Va, ta foi t'a sauvé. Dans le sens de guérir. Ta foi t'a guéri. Eh bien, sur le champ, subito. Instantanément. Aussitôt, les yeux de l'homme s'ouvrent. C'est un des hommes les plus heureux que la terre d'Israël a connu. Vous savez pourquoi? Cet homme, s'il était né aveugle, eh bien, la première personne que cet aveugle voit pour la toute première fois quand ses yeux s'ouvrent, c'est le Fils de l'homme. Nous, on a d'abord vu des tantes ou des grand-mères, des sorciers, tout ce que vous voulez. Lui voit le Fils de l'homme, le soleil levant, le soleil brillant, le soleil qui éclaire. Le soleil qui débarrasse, qui nous débarrasse de tout problème. Et à partir de ce moment, Bartimée ne sera plus le même. Ce qui est encore extraordinaire. Lui qui n'avait pas prévu un voyage vers Jérusalem, il dit non, maintenant je suis guéri, j'entre dans le cortège. Et je suis Jésus, alléluia. Et il se met à le suivre. Oh gloire à Dieu. Mes amis, le Dieu que Bartimée a rencontré, et là, ce matin, il est parmi nous. Et je voudrais que tous ceux qui veulent que le Seigneur puisse les visiter puissamment, eh bien, s'inspirent de la démarche de Bartimée. Je vais donner l'occasion à tout celui qui veut crier à Jésus pour un besoin clair, pour un besoin précis. Donner l'occasion à celui-là ou à celle-là de se mettre debout. Et tous ensemble, nous allons prier. Nous allons crier à Jésus. Nous allons crier à ce Jésus, le Seigneur de gloire, le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée. Alors, mon frère et ma sœur, commence à crier. Oh, alléluia. Commence à parler au Seigneur. Dis au Seigneur, comme Bartimée, oh Dieu, aie pitié de moi. Je suis fatigué de cette maladie. Je suis fatigué de cette situation humiliante. Je suis fatigué de cette privation. Oh Dieu, aie pitié de moi. Eh bien, si tu cries avec foi, si tu cries avec foi, eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Mon frère et ma sœur, Dieu t'entendra. Alors, lève ta main et mets-toi à crier. Ne te préoccupe pas de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Comme Bartimée, eh bien, regarde à Jésus. Les gens vont essayer de te distraire, vont essayer de te décourager, mais ne tombe pas dans ce piège. Reste déterminé. Oh, alléluia. Le Dieu de Bartimée est là. Le Seigneur de gloire est au milieu de nous. Le soleil, le vent qui nous a visités est là. Ces rayons voudraient vous irradier. Ces rayons voudraient apporter la guérison à votre corps. Voudraient ouvrir des portes qui sont restées fermées. Oh Dieu, oh Seigneur de gloire, oh Maître, Jésus, nous crions à toi. Jésus, viens au secours. Je me tiens devant toi. Je crie à toi, aie pitié de moi. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même encore aujourd'hui. Touche-moi là, oh Dieu. Touche-moi là, Seigneur. Touche-moi là, ô Seigneur. Touche dans mon cœur ce qui ne va pas et enlève-le. Oh, merci. Merci. Merci, Jésus. Enlève ce qu'il y a dans le ventre. Cette chose terrible. Dans le nom de Jésus. Restaure ce qui a été brisé. Ouvre les portes qui sont restées verrouillées. Éclaire, comme tu as éclairé Bartimée, qui était complètement plongé dans les ténèbres à cause de sa cécité. Mais ce jour-là, il s'est approché de toi. Il a crié à toi avec foi. Tu as entendu sa voix. Tu as entendu son cri. Tu t'es arrêté. Le Seigneur est là. Il est en train de passer. Crie à lui. Fais-le arrêter, dit Seigneur. Vois ma misère. Vois ma douleur. Vois mon problème. Et délivre-moi. Et restaure-moi. Ce que le péché a détruit en moi, restaure-le. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Ce matin, tu as été sensible, Seigneur, aux cris qui sont montés des cœurs vers toi. Ces cris, oh Dieu, qui manifestent la douleur dans le corps, qui manifestent un besoin matériel, qui manifestent un besoin professionnel. Ces cris, oh Dieu, montés vers toi. En criant, Seigneur, ton peuple a manifesté sa totale confiance en toi. En criant en toi, Seigneur, nous avons exprimé notre foi. Nous avons reconnu par là qu'il n'y a que toi et toi seul qui peut nous délivrer de cette situation qui nous accable, de cette situation difficile, humiliante. Oh, merci. De donner la guérison au corps maintenant, de libérer des situations qui sont restées bloquées. Merci de faire reculer les ténèbres dans le foyer et que ta lumière luise puissamment. Merci de faire reculer les ténèbres dans des familles, des ténèbres dans le monde du travail, des ténèbres dans les affaires, que ta lumière luise puissamment et nous apporte le succès. Nous apporte la réussite, nous apporte la guérison, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout, tu as entendu, et nous te laissons la suite, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous